Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de 8h30 Sport. Notre invité ce matin est le skipper Romain Attanasio. Bonjour monsieur Attanasio.
Oui, bonjour à tous.
Dans deux jours, vous embarquez pour la Transat Jacques Vabre 2019 avec votre coéquipier Sébastien Marsé. Vous partez à l'assaut de l'Atlantique avec un départ au Havre et une arrivée à Salvador de Bahia au Brésil. Première question toute simple, comment vous vous sentez à l'aube de ce périple?
Écoutez, très bien, on est chaud. Ça fait plusieurs mois qu'on prépare le bateau. En début d'année, on prépare le bateau surtout au chantier. En fait, on démonte, on check tout. Ensuite, on va mettre le bateau à l'eau. On le met en avril. On fait tous les entraînements. Et puis, on arrive normalement prêt. Entre entraînement, préparation, on éprouve les nouvelles pièces qu'on a mis sur le bateau et on est prêt au Havre là pour en découdre.
Expliquez-nous un peu la préparation avant une telle course. Comment ça se passe aussi bien physiquement, mentalement ou tout simplement avec le matériel et ce fameux bateau?
Oui, d'abord c'est un sport mécanique, donc la première chose c'est de bien préparer le bateau. Donc pour ça, c'est un éternel recommencement à la préparation des bateaux puisque après chaque grande course qui a toujours lieu au mois de novembre, on met le bateau en chantier à son retour, c'est-à-dire après Noël, donc tout début janvier. Et puis là, on a 4 mois de chantier. Donc là, le bateau est complètement démonté. Il est mis dans un hangar et on démonte chaque pièce. On les teste, on les contrôle et puis on fait les petites innovations, les petites modifications qu'on a eu envie de faire pendant l'année, quoi. Et puis donc là, ça nous amène mi-avril, le temps de remettre à l'eau, de remettre le mât, tous les cordages et tout ça. On est début mai. Là, on a quelques premières petites courses qui sont un peu des courses pour se caler. Puis les sorties avec les partenaires, vous savez, avec les sponsors, on fait pas mal de sorties pour faire naviguer les salariés et tous les gens de la société. Et je suis au centre d'entraînement à Port-la-Forêt, donc les entraînements avec mes concurrents jusqu'au départ de la course. Donc les entraînements, c'est les entraîneurs qui, sur l'eau, mettent des bouées pour simuler des parcours. Donc soit on fait des parcours de 24-48 heures, soit on fait ce qu'on appelle des speed tests. Donc on se compare 2-3 bateaux côte à côte et puis on change un réglage, on voit si ça accélère, si ça ralentit par rapport au copain. Puis en amont de tout ça, ou à côté de tout ça, pardon, il y a la préparation, c'est-à-dire gérer la météo, la préparation physique, la préparation mentale. Et puis la météo, ça consiste à faire un roadbook, un peu comme au Dakar, vous voyez, on étudie tout le parcours, zone par zone, en fonction des conditions qu'on retrouve en général. Et puis, s'il y a des variantes, comment on les gère, quoi. Donc en fait, nous, quand on part, on sait... Normalement, on a la météo avant de partir. On n'a pas le droit d'avoir des conseils météo d'un routeur pendant qu'on est en mer. On doit se débrouiller par nous-mêmes. Donc là, on doit aller chercher nos cartes sur Internet grâce aux antennes qu'on a sur le bateau et faire notre stratégie nous-mêmes. Par contre, avant le départ, on fait ça avec le routeur et on fait surtout ce fameux roadbook qui nous donne un petit peu les grandes lignes de ce qui va se passer.
Vous partez donc avec Sébastien Marsé, ancien équipier de Franck Camas notamment. Comment est née cette collaboration et comment, surtout, vous êtes décidé à partir ensemble?
Ah, le choix du co-skipper est très important, effectivement, parce que on est quand même dans un univers clos. On va se retrouver 15 jours dans quelques mètres carrés à partager. Donc d'abord, la première chose, c'est de bien s'entendre. Et puis ensuite, c'est des compétences, les compétences de l'autre. J'imagine que c'est un peu comme en montagne quand on part faire une expédition à deux. Il faut choisir quelqu'un qui est pas de notre famille, quoi. Donc qu'on connaît un peu, mais en plus, et puis en tout cas qu'on connaît pas vraiment le privé, j'ai envie de dire, mais par contre dont on connaît les compétences, et puis va falloir complètement se reposer sur lui. Il faut savoir que quand on va dormir pendant notre quart de repos, c'est lui qui est sur le pont tout seul et qui va gérer le bateau à notre place. Donc il faut effectivement complètement lui faire confiance. Donc ce choix, il est réfléchi. Moi j'ai plutôt pensé à lui parce que c'est quelqu'un qui vient de la Volvo Ocean Race, vous savez, c'est le tour du monde en équipage. Et je connais très bien Franck Camas, qui était le skipper avec qui il a navigué. Et donc j'ai appelé Franck pour lui demander ce qu'il en pensait. Il m'a dit, vas-y, fonce. Il est super volontaire, il est à fond. Donc je sais que ça va être quelqu'un qui va rien lâcher.
Avant votre objectif de 2020, le Vendée Globe, qu'on surnomme l'Everest des mers, on le rappelle, cette Transat Jacques Vabre, c'est une sorte de préparation pour préparer ce bateau pour le Vendée Globe, qui est votre grand objectif de 2020.
Ah oui, bien sûr, tout à fait. Alors En fait, c'est vrai qu'on a une grande course chaque année. L'année dernière, c'était la Route du Rhum. Cette année, c'est la Transat Jacques Vabre. Ce sont des grandes et belles courses, mais il faut reconnaître que le point d'orgue de toute cette préparation, en fait, c'est le Vendée Globe. Vous disiez très justement, c'est l'Everest des mers. Les alpinistes veulent faire l'Everest, les marins veulent faire le Vendée Globe. C'est comme ça. Il y a même pas de raison, en fait. C'est la plus grande course, la plus belle, la plus incroyable, la plus dure. Donc oui, on prépare la Transat Jacques Vabre en ce moment à fond, mais avec dans un coin de la tête, toujours en ligne de mire, ce Vendée Globe qui va être, forcément, c'est la Transat Jacques Vabre qui part du Havre et qui va au Brésil. Vous voyez, quand on part du Vendée, quand on part pour le Vendée Globe, quand on arrive au Brésil, là, la Jacques Vabre, c'est terminé. Nous, quand on part sur le Vendée, c'est finalement le début des difficultés. Donc forcément, ça sert beaucoup de préparation et l'idée, c'est d'utiliser tout ce qui va se passer sur cette course et les courses précédentes comme la Route du Rhum l'année dernière pour parfaitement éprouver le bateau, pour l'avoir complètement en main. Ça prend beaucoup de temps, ça se fait pas en quelques mois, pour arriver le plus près possible en novembre 2020, c'est-à-dire dans un an maintenant, quoi.
Revenons un peu sur vous et cette carrière de skipper qui ne coulait pourtant pas de source, vous l'homme de montagne des Vars. En effet, votre grand-père est l'un des fondateurs de la station d'hiver. Expliquez-nous un peu votre parcours et qu'est-ce qui vous avait fait quitter la neige pour rejoindre les flots.
Ah, c'est vrai que j'ai un amour particulier pour les Hautes-Alpes. Mon grand-père qui était aussi guide de haute montagne et entraîneur de ski, ma tante Joël était en équipe de France de ski en 65-66, vous voyez, donc c'est vraiment effectivement beaucoup de skieurs. C'est presque moi qui skie le moins bien de la famille finalement. Donc la mer, j'y suis arrivé comment? Parce que j'ai un grand-oncle par alliance qui est breton de Port-Navalo dans le Morbihan. Et avec mon père qui travaillait dans les travaux publics, on voyageait beaucoup quand j'étais enfant. On habitait 2 ans en San Salvador, au Pakistan, en Nigeria, en Indonésie. Donc j'allais à Vars pendant les vacances, mais sinon j'allais aussi pendant l'été chez ce grand-oncle. Et en 90, quand on est rentré en France, et ma grand-mère, ma mère est de l'Oise, vous voyez, donc on s'est installé dans l'Oise, et c'est l'année où Florence Artaud a gagné la Route du Rhum. Et je sais pas pourquoi, j'ai trouvé cette aventure incroyable, et du coup, au grand désespoir du grand-père, j'ai choisi la mer plutôt que la montagne.
Et sur le plan personnel, pour parler un peu de ça, est-ce que c'est pas trop dur de partir donc en mer et devoir quitter vos proches? Est-ce que par exemple le fait que votre compagne, Samantha Davis, est également une skippeuse, facilite cette séparation ou pas du tout?
Oh non, alors la séparation sur une Jacques Vabre, elle n'est pas très difficile puisque on part 15 jours. Notre fils Ruben qui va rester à la maison avec les grands-parents, finalement il va rester une dizaine de jours à la maison, puis après il va prendre l'avion avec eux pour nous rejoindre au Brésil. Donc ça se fait assez vite, en fait. Et puis, le fait que ça me parte, elle gère sa course, moi, je gère la mienne. Alors, bien sûr qu'on a un œil l'un sur l'autre, forcément. Mais je dirais que c'est pas très dur. Le plus difficile, je pense, ça va être effectivement l'année prochaine, le Vendée, parce que là, c'est 3 mois, quoi. Donc, la période de Noël, tout ça, où on est loin de la maison. Moi, je me rappelle que sur mon précédent Vendée, Noël, ça avait été vraiment là où j'avais eu un petit coup de blues, quoi. J'étais en pleine tempête pendant 3 jours. J'avais ouvert mes cadeaux le 26 décembre. Et je voyais les photos à terre à la maison de Ruben qui ouvrait ses cadeaux au pied du sapin. Donc voilà, ça c'est un peu dur. Là, pour le coup, sur la Jacques Vabre, alors, ça paraît long, c'est 15 jours, mais pour nous, finalement, c'est un sprint, en fait. Donc on part et puis on est à fond dans notre course et puis on n'a pas trop le temps de se poser de questions qu'on est déjà arrivé. Et puis, et puis notre fils, voilà, comme je vous le dis, est bien gardé par les grands-parents. Donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Non, c'est pas vraiment un problème, même si, évidemment, il y a toujours un petit peu d'appréhension le matin du départ, mais ça passe très vite. Et puis lui est habitué à nous voir partir, donc il sait très bien que c'est pour ensuite avoir de super vacances au Brésil.
J'imagine bien. Une question me vient, pourquoi vous n'avez pas décidé à courir ensemble avec Samantha Davis, tout simplement? Ou c'est pas possible, ou vous ne voulez pas le concevoir, ou c'est quelque chose où vous voulez séparer le personnel et le pro?
Non, alors ça se fait comme ça, en fait. C'est-à-dire qu'on a... En fait, on avait couru la Transat AG2R, qui est une transat entre Concarneau et Saint-Barth, qui se court en Figaro, donc des bateaux plus petits. On avait fait ça en 2010, c'était une super expérience, on avait failli gagner. Et on était quatrième, mais on avait un peu perdu des places sur le dernier parti parcours, mais on passait en tête aux Canaries. Enfin bref, c'était vraiment une super aventure pour nous. Là, il se trouve qu'on a un IMOCA chacun, ce qui est quand même incroyable. On a une chance folle, on le mesure. On sait qu'il y a quelques couples de navigateurs, mais voilà, c'est un peu comme les marins pêcheurs, vous voyez, c'est des métiers qui sont en famille. Mais Il y en a qui, voilà, qui n'ont pas de bateau, des skippers qui n'ont pas de bateau parce que bah, c'est dur de trouver des partenaires, ça ne se fait pas comme ça. Il y a des skippers qui ont un bateau pour deux, donc là, effectivement, ils le partagent. Nous, on a la chance incroyable d'avoir chacun notre bateau, chacun notre projet. Donc, évidemment, on ne va pas laisser un bateau au garage pour monter sur l'autre. On part, voilà, chacun avec nos bateaux, chacun avec un autre équipier, chacun avec nos projets. Et c'est ce qui rend aussi cette aventure incroyable parce qu'on échange beaucoup, on s'entraide, on se donne des conseils, on se partage notre expérience chacun sur notre bateau. Donc, c'est plutôt, c'est au contraire très enrichissant et on est bien content comme ça.
Finalement, dernière question, qu'est-ce qu'on peut tout simplement vous souhaiter avant de prendre la mer et partir pour cette belle aventure ?
Ah bah que tout se passe bien, hein. C'est le vœu que je fais à chaque fois que je vois une étoile filante dans le ciel quand je suis en mer. Je me dis que tout se passe bien, que j'arrive déjà à l'autre côté, parce que il y a plusieurs. Avant, quand on prend une course à la voile, la première difficulté d'abord, c'est d'être au départ. Il faut d'abord réunir les partenaires, réunir la préparation du bateau. Enfin, c'est vachement de travail. Donc une fois qu'on est au départ, c'est déjà bien. Et ensuite, l'autre, avant de mesurer le résultat, c'est d'arriver de l'autre côté. Il y a malheureusement, bah, comme dans tout sport mécanique, des avaries, des tempêtes. C'est comme quand on part en montagne. Hein. On sait quand est-ce qu'on prend le départ, mais on ne sait pas si on arrivera en haut du sommet. Et des fois, mon grand-père me disait « Savoir renoncer est souvent un signe de courage en montagne. » Et c'est un peu la même chose en mer. Hein. Il faut pas, bah, quand ça passe pas, ça passe pas. Donc voilà, ce que vous pouvez me souhaiter, c'est déjà d'arriver au Brésil et puis ensuite que tout se passe bien pour que j'arrive le mieux classé possible, tout simplement.
Eh bien, je vous le souhaite tout simplement. Merci beaucoup, Romain Athanasio, d'avoir accepté notre invitation et je vous souhaite bien entendu bon vent.
Merci beaucoup et à très bientôt. Et puis à cet hiver sur les pentes enneigées.